reset.
Ici Marc Levasseur, bienvenue à Django et compagnie. Pour le dernier épisode de la saison, on reçoit deux héritiers d'un précieux savoir sans lequel il n'y aurait pas de jazz manouche. Et je parle bien entendu des luthiers. On se doute bien que c'est tout un honneur de pouvoir fabriquer une guitare pour l'un des plus grands guitaristes du style qu'est Birelli Lagraine. Et c'est exactement ce qu'a réalisé le luthier Martin Tremblay de Longueuil. Nous l'avons rencontré dans son atelier, mais puisqu'il est aussi musicien et excellent en passant, on en profite pour écouter une improvisation qu'il a réalisée pour l'occasion sur un de ses superbes instruments. Nous sommes avec Martin Tremblay, luthier d'exception, luthier célèbre en fait. On va vous raconter pourquoi dans quelques instants, mais d'abord, on va lui demander de se présenter. Il exerce son métier, fabrique des guitares, reconditionne des guitares d'exception, qu'elles soient de jazz manouche ou même de jazz plus classique. Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-moi, c'est quoi pour vous quand vous voyez un morceau de bois ou une guitare qui vous parle? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
Ben, dans le fond, ça dépend toujours c'est quoi la commande. Donc, le bois, dans le fond, on essaie toujours d'en tirer le meilleur. C'est ça qu'on essaie de faire, tirer le meilleur de sa pièce de bois pour faire le meilleur des instruments. C'est ça, que ça soit le plus jouable possible et le plus séduisant possible à l'œil et à l'écoute pour le guitariste.
Quand vous dites on regarde le bois, est-ce que le bois a des qualités sonores, il y a différentes qualités dans le bois. Quand on le sélectionne pour faire un instrument, comment on fait ça?
Ben, de plusieurs manières. Premièrement, on en achète toujours beaucoup de ce qu'on a pensé, de ce qu'on pense qui est bien. Des fois, on revient chez nous, ça sèche ou whatever, c'est moins bien. Ça dépend comment on voit ça aussi. Tout le monde a une approche assez différente. C'est ça qui fait un peu la particularité de la lutherie, des luthiers, des instruments. C'est que tout le monde a une approche différente. On n'a pas tous la même réponse. Ou la même équation pour la même réponse, disons.
Mais le bois en tant que tel, lorsque vous choisissez une pièce de bois, est-ce qu'elle a des qualités sonores particulières? Est-ce qu'elle va sécher? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on regarde d'abord?
Ben, la légèreté, la densité, si elle sonne bien aussi au timbre, là, on voit toujours ce petit côté romantique-là, là, du luthier qui tape sur le morceau de bois. Ben oui, ça se passe quand même, ça. Pas à longueur de journée, malheureusement, mais tu sais, quand même, on essaye de des fois, là, on fait des expériences aussi autour de ça, c'est sûr. En plusieurs années, on développe des tics, des affaires, des approches, des recettes aussi par rapport à ça. Dire, j'aime mieux le bois plus dense ou le bois plus léger, dépendamment pour quel type d'instrument, justement, on va adapter ça. C'est apprendre à adapter le type de bois qu'on a par rapport au type d'instrument et la demande.
Mais typiquement, en jazz manouche, on a les grandes bouches, les petites bouches. On dit que les grandes bouches sont un petit peu plus sombres de timbre, alors que les petites bouches sont plus claires. Est-ce que le type de bois aussi influence, j'imagine?
Ben oui, c'est sûr. On peut pairer ça moi, je veux une guitare, justement, la grande bouche. On va dire que c'est un peu plus baumy. Puis si on peut accentuer ce caractère-là ou le réduire, si on veut, justement, toujours avec le bois, c'est sûr. Mais quand on parle de guitare manouche, une particularité qui est importante à savoir, c'est que le côté fond est fait en plywood. C'est vraiment du bois laminé. Trois épaisseurs de plis. Puis, veut, veut pas, ben, ça agit pas pareil comme le bois.
Ouais.
C'est un laminé, là, c'est un assemblage avec la colle au milieu, tu sais. Un sandwich.
Ça bouge moins, là, ça vibre moins un peu.
Ça vibre tout autant, mais d'une autre manière particulière, tu sais, d'une manière particulière, là, c'est assez différent. C'est ça, il y a du monde qui vont dire, ah, c'est mieux ça pour ce type de guitare-là, pour les guitares manouches, mais c'est ça. Ça dépend aussi. Moi, je suis puriste, donc je vais beaucoup avec le plywood.
Mais donc, c'est la table d'harmonie, c'est la qualité du bois de la table d'harmonie qui va faire le gros du son, si je vous suis bien, là.
Oui, mais tout autant la composition des plis aussi, du multipli, va être important rendu là. Oui, c'est important la composition du multipli. Puis oui, la table est super importante aussi. C'est sûr que la table, c'est assez important. Ouais, vraiment.
Vous, là, vous vous spécialisez dans la réfection. Vous avez ici, on est dans votre atelier à Longueuil, il y a des guitares de 1940 accrochées au mur que vous allez un jour reconditionner. Vous êtes on pourrait vous dire un peu puriste, non, dans votre métier, dans ce que vous faites?
Ben oui, j'ai une approche assez puriste, dans le sens, une des parties de mon métier, c'est vraiment la conservation de ces instruments-là. Puis donc, j'essaie de conserver dans l'état qui est le plus juste pour l'instrument, par rapport à sa situation qui est en ce moment, disons, au stade. Pas le refaire à neuf et tout. J'essaie de respecter l'entité de l'instrument. Donc, c'est sûr qu'après ça, je vais avoir cette approche-là aussi quand je vais faire des répliques d'instruments. Je fais beaucoup des répliques, par exemple, de guitare manouche. Pour ça, je vais faire une Selmer ou une Busato. C'est comme les deux gros modèles que je vais faire. Et puis oui, j'ai l'approche la plus puriste par rapport à l'approche, aux dimensions, aux densités, aux épaisseurs, à tout ça, oui, parce que j'ai eu accès à ces guitares-là. Donc, ça me donne vraiment, pour moi, c'est ça, dans le fond, mon brand que j'essaie de faire depuis. C'est vraiment d'émuler le plus possible ce que c'est supposé de sonner, disons. C'est ce genre de guitare-là. Je ne réinvente pas la guitare. Je fais pas de trous particuliers, de trucs particuliers, d'accoudoirs, de trucs. Je vois. C'est très conservateur, très, très conservateur.
Vous recherchez le son d'origine.
Oui, vraiment, c'est ça. Moi, ma mission, puis à cause des guitares auxquelles j'ai eu accès, ça allait de pair pour moi de donc en faire des répliques parce que j'ai eu accès à des formidables instruments qui étaient super vintage, qui aujourd'hui sont super. Sont inaccessibles pour la plupart des gens. Donc, c'est sûr, je me suis plus à vouloir répliquer ça dans mon travail, vraiment. C'était ça. C'est ça ma mission avec la guitare manouche, vraiment.
C'est limpide, c'est clair. Mais là, dites-moi, c'est quoi votre plus grande satisfaction dans votre travail, que ce soit de fabriquer une guitare ou d'en retrouver une et de la rendre, là, de la faire sonner comme elle sonnait à l'époque ou d'en fabriquer une à partir de zéro, là? Qu'est-ce qui vous satisfait le plus?
Ben, c'est sûr, le son, on va toujours dire le son. Ça dépend d'une restauration, si des fois la guitare peut m'arriver dans une boîte de souliers puis repartir d'ici vraiment dans un état assez impeccable. C'est sûr, c'est très satisfaisant, surtout avec le nombre d'heures que je vais avoir passé avec cet instrument-là. Mais quand je fabrique une guitare, c'est sûr de dire une guitare qui a une belle projection, qui a un bel équilibre. C'est une guitare qui chante autant dans les hautes que dans les basses, qui fait pas juste cracher des mids. Une guitare, oui, qui a des basses parce que c'est pas connu pour avoir super beaucoup de basses, des guitares manouches, mais oui, des bonnes en ont, des superbes.
Bon, vous avez fait une guitare pour probablement ce qui est le top guitariste manouche au monde en ce moment, Birelli Lagraine. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui est arrivé avec ça.
Ben, dans le fond, j'ai eu l'occasion, à cause de Denis Chang, avec qui on travaille ensemble depuis longtemps au niveau de ses guitares et tout, là. J'ai fait une guitare à Denis qui a été vraiment qui est plus que légendaire aujourd'hui, que ouais. Tout le monde a joué avec. Puis dans le fond, Birelli s'est adonné à jouer avec, au même titre que plein d'autres gens aussi, tout aussi, immense, disons, là. Des colosses de ce style. Fait que, dans le fond, il a joué avec ça. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Birelli Lagraine. Puis il m'a tout simplement dit hey, ça m'intéresse vraiment.
Toi, vous avez fait une guitare pour Pirelli.
Ouais, ouais, il me l'a tout simplement demandé. J'ai eu l'occasion un peu de réparer une guitare un peu sur un coin de table avant un spectacle qu'il donnait au Club Soda. Puis, je sais pas, et après ça, on est sortis après prendre un petit verre ou deux. Et puis, ben, c'est ça, après ça, il m'a demandé s'il pouvait pas en avoir une, en acheter une. Et puis, c'est ça, et voilà.
Du cégep de Longueuil à Biréli-Lagraine quand même. Quand même un bon cheminement.
Ouais, ouais, il y a eu beaucoup de temps entre les deux, là, entre le début et la fin, disons, là. On parle, j'ai fait ça en 2018, je pense, que je suis allé, j'ai fait une guitare pour Birelli. Fait que, ouais.
Vous êtes allé lui apporter à Strasbourg, c'est ça?
Ouais, exactement, j'étais allé à Strasbourg. En fait, j'en avais fait une pour Adrien Mognard.
Ouais.
Puis j'allais à Paris, puis après ça, je prenais le train, j'allais lui livrer, puis après ça, je prenais le train. Puis après ça, j'étais allé à Strasbourg, livrer l'autre guitare.
Beau voyage, belle rencontre.
Ouais, ouais, quand même. Vraiment.
Ben merci beaucoup, Martin. Bon succès, bonne suite.
Ben merci, merci à vous.
Que ça résonne. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le chant magnifique d'une guitare tremblée, donc que Martin a conçu lui-même. On peut entendre ses riches harmoniques, même si on n'est pas musicien, je pense que tout le monde peut l'apprécier. Alors, c'est un peu comme le Saint Graal pour les musiciens. Alors, bravo, Martin. On va maintenant s'entretenir avec un autre luthier qui pratique son art entre Montréal et la France et qui fabrique aussi des instruments de très grande qualité. Mais d'abord, on écoute le son d'une de ses guitares avec une improvisation de haute volée qui a été réalisée par Rémi Hervaux. Thank you. Oh, que j'aimerais jouer comme ça. L'époustouflant Rémi Hervault avec une guitare grande bouche fabriquée par Théo Kazourian. Captation réalisée dans le cadre du dernier festival de guitare de Paris qui a eu lieu ce printemps. D'ailleurs, Théo fabrique aussi des guitares, comme on peut l'entendre aussi. Ça résonne énormément, ces guitares. Alors, il pratique la lutherie avec originalité et passion. Et on va en discuter puisqu'on le rejoint par téléphone en France où il se trouve en ce moment. Théo, bonjour.
Bonjour, Marc.
Alors, Théo, dites-moi, vous devez être fier là, d'avoir un musicien comme ça qui prend un de vos instruments puis qui le fait chanter, qui le triture dans tous les sens.
Ben, c'était assez incroyable la rencontre avec Rémi durant le Festival de guitare de Paris. C'était vraiment une agréable surprise. Je ne connaissais pas ce musicien avant, puis on s'est rencontrés peu avant, donc par courriel interposé avant de se rendre au festival. Et puis quand je l'ai vu jouer sur une guitare, je me suis dit waouh, je vais avoir du bon temps. Il va pouvoir me faire découvrir les subtilités de mes instruments. Donc c'était un moment inoubliable, effectivement.
Ouais, parce que son jeu est quand même très diversifié. Là, on entendait les clairs, les aigus, c'est-à-dire les aigus, les basses, etc. Il y avait vraiment un bon mélange. Son jeu a vraiment fait ressortir les qualités de votre instrument.
Effectivement. C'est quelqu'un qui sait très bien mettre en lumière, mettre en valeur les instruments, aller chercher les petits recoins, toutes les notes, etc., pour le faire en fait apprécier au public. Il jouait vraiment devant une assemblée dans un petit auditorium. Donc c'était vraiment un très beau moment. Oui.
Bon, comment on fabrique un de ces instruments lorsqu'on s'appelle Théo Kazourian? Comment on approche la fabrication d'un instrument comme celui-ci?
Alors, pour ma part, je me classerais dans les non-traditionnalistes. Je ne suis pas quelqu'un qui essaie de faire de la réplique d'instruments ayant existé. Donc là, quand on parle de guitare manouche, on pense bien entendu à Selmer, Macaferri, Busato, pour n'en citer que quelques-uns. Je parle bien entendu d'une base qui a été établie par ces maîtres luthiers de l'époque. J'essaie d'y greffer ma patte, d'y greffer mon son, de greffer un petit peu ce que je peux appeler une nouvelle saveur, un nouveau son, parce que je trouve ça intéressant de faire évoluer un petit peu, comme certains musiciens font évoluer la musique, par leur approche mélodique, leur travail, etc. Moi, avec les outils que je fabrique, parce que les guitares que je fais sont des œuvres d'art, effectivement, d'une certaine partie, mais en première partie, c'est vraiment des outils pour des musiciens professionnels et des amateurs avertis pour exercer leur art. Donc, par ces outils-là, le musicien va être capable de jouer, de montrer à l'auditoire, etc., ce qu'il sait faire un petit peu. Mais le son que la guitare va produire, la manière dont elle va sortir les fréquences et certaines notes, ça va participer énormément à ce que le musicien va pouvoir offrir en termes de musicalité et de son. Donc moi, j'essaie de faire passer quelque chose d'un petit peu personnel là-dedans et de livrer aux musiciens des instruments qui peuvent les pousser un petit peu à sortir un peu des retranchements du traditionnalisme, en fait, qu'on peut retrouver dans ces genres de styles comme la musique manouche. C'est sûr que c'est une musique extrêmement traditionnelle et folklorique à la base, avec des reprises de standards de jazz, beaucoup de virtuosité, mais je crois que ça peut être intéressant de donner un petit vent de fraîcheur un petit peu là-dedans. Donc c'est sûr que, voilà, ça va être des instruments qui vont avoir un caractère particulier, une signature aussi qui va se démarquer. Et moi, c'est vraiment mon approche. Je veux des instruments très vibrants, assez aériens, avec un registre sonore assez vaste. On va avoir des aigus qui vont être scintillants, très dynamiques, mais aussi des basses assez profondes. Une guitare qui peut nous emporter vraiment autant en solo qu'en accompagnement.
Un musicien joue mieux sur un bon instrument, c'est connu, parce que l'instrument, c'est comme une symbiose à un moment donné avec la personne qui l'utilise, qui en joue. Maintenant, toutes ces caractéristiques que vous décrivez, comment y arrivez-vous là? Parce que vous partez de morceaux de bois, là, finalement, puis vous arrivez, puis avec des cordes et puis des bouts de métal, vous arrivez à créer quelque chose qui chante. Là. Comment vous faites ça? C'est quoi? Quand vous regardez un bout de je sais pas moi, un bout de bois, puis vous dites ça va chanter, ça chantera pas, ou je vais le travailler comme ça. Comment vous procédez?
Effectivement, la sélection du matériau, le bois que l'on travaille, qui va composer 97-98% de la guitare, est extrêmement important. Donc les pièces de bois que j'achète, que je stocke, que je sélectionne, que je mets dans mon atelier pendant plusieurs années avant de les travailler, c'est vraiment des morceaux qui sont la crème de la crème de ce qu'un arbre peut nous offrir. Sur un arbre, on va utiliser certaines petites pièces parce que les caractéristiques, surtout mécaniques, physiques, mais aussi esthétiques, que l'arbre peut nous proposer, sont extrêmement importantes dans la facture instrumentale et particulièrement là de guitare. Donc les bois que j'ai dans mon atelier, j'essaie d'avoir un éventail quand même assez large de type d'essence pour pouvoir proposer aux musiciens différentes options dépendamment de ce qu'ils recherchent en termes sonores et aussi esthétiques. Alors oui. Je suis capable d'aller fouiller un petit peu dans ce que j'ai pour proposer une recette en fait.
Mais juste pour qu'on comprenne bien, là, vous parlez des basses qui sont profondes, vous parlez des aigus chantants. Qu'est-ce que c'est un différent type de bois ou c'est la façon de le travailler qui va donner ce résultat?
C'est un ensemble. C'est sûr qu'on part, il faut travailler sur une bonne base. La bonne base, ça va être un matériau de qualité, de première qualité. Après ça, le travail de l'artisan luthier, va vraiment faire toute la différence. Je vais réussir à travailler le bois, à assembler les pièces de bois entre elles d'une certaine manière pour arriver à un but sonore très précis. Donc comme vous le citiez, les aigus chantants, les basses profondes, le registre au travers du manche, c'est-à-dire toutes les cases, j'essaie de trouver un bel équilibre entre toutes les notes pour pas qu'on ait des notes qui soient plus fortes que d'autres, etc. Pour que l'ensemble de l'instrument soit agréable à jouer et cohérent. Ça, on parle vraiment de manière de travailler le bois, quel type d'assemblage on va utiliser, les types d'adhésifs, type de tôle et type de technique de fabrication. Donc on rentre vraiment dans le détail de la finesse de la fabrication. Et comme on dit, l'expression dit bien, le diable est dans le détail. En lutherie, ça prend tout son sens. Chaque petit détail va avoir une énorme influence en fait, sur le résultat, l'empreinte sonore finale de l'instrument.
Ah, ça doit être quelque chose, là, j'imagine. Est-ce que il vous arrive, par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a 10 étapes à franchir et que il y en a une qui fonctionne plus ou moins bien, vous n'êtes pas content du résultat, j'imagine que vous corrigez ou vous recommencez. Est-ce que ça vous arrive, ça, de dire, ah, je pense que ça devrait donner dans telle direction, puis au final, ben parce que, je ne sais pas, telle étape ou l'assemblage des étapes donne quelque chose d'un peu différent?
Tout à fait. On est un peu comme des funambules, parfois. C'est assez drôle parce qu'on joue en lutherie artisanale pour la guitare haut de gamme. On joue avec les limites de la physique, toujours, pour avoir les instruments les plus sonores possibles, mais à la fois très stables et très durables. On joue avec la limite des matériaux. Donc, on est tout le temps en équilibre. Bien entendu, ça peut arriver, et c'est souvent le cas de faire des petites erreurs, des différentes appréciations, des choses comme ça. Et le but du luthier, et puis la qualité de la lutherie, va souvent se retrouver dans cette capacité-là à réparer les erreurs, à recommencer certaines opérations pour changer et puis reprendre un autre angle d'approche, etc. C'est effectivement très important de quand on voit quelque chose qui n'est pas satisfaisant à 100%, de mettre de côté, recommencer ou modifier. Bien entendu, toujours dans le but d'avoir l'instrument le plus performant possible à la fin.
Le bois, ça vieillit, ça mature. On n'a qu'à penser. Évidemment, la référence en violon, c'est Stradivarius et pas que Stradivarius, là, tous les luthiers de Vérone, aux environs de Vérone à l'époque. Mais est-ce qu'on peut anticiper, comme vous, lorsque vous fabriquez un instrument, est-ce que vous pouvez anticiper comment il va vieillir, comment il va s'améliorer dans le temps? Est-ce que ça, c'est possible?
C'est possible d'anticiper. On est capable d'anticiper parce que on a la chance d'avoir déjà un passé en lutherie, dans l'histoire de la lutherie, donc d'avoir vu tel et tel type d'instrument, les manières de fabriquer, comment les instruments vieillissent, ceux qui vieillissent mal, ceux qui vieillissent bien, et pourquoi. De comprendre en tant que luthier, ah ben oui, il y a un assemblage de cette manière-là, regarde l'effet que ça a eu sur cette guitare-là, elle a 30-40 ans aujourd'hui, ça a bougé comme ci, comme ça. Donc on est en perpétuel, de mon côté, en perpétuelle évolution en termes des assemblages, des choix de design et de conception qu'on a sur les guitares. Donc c'est sûr que une guitare qui est bien conçue, qui a été conçu avec minutie, qu'on a pris le temps de sélection, d'assemblage, va être beaucoup plus durable. Donc on va être capable de dire à la fabrication de la guitare, moi cette guitare-là, je peux prouver qu'elle va durer dans le temps. Et en termes de maturation sonore, ça c'est vraiment l'essence même du matériau bois, le matériau qui va évoluer avec le temps. Plus il va avoir de vibrations qui va passer au travers de lui, plus il va maturer, plus il va prendre de la capacité vibratoire en fait. Donc les instruments faits main, haut de gamme, ils ont une courbe d'évolution qui est très intéressante et fascinante. Je trouve ça toujours fascinant en fait de voir comme un instrument se bonifier avec le temps.
Oui, tout à fait. Il y a aussi un aspect important, la jouabilité, et ça, c'est propre à chacun, à chaque musicien, en fait, chaque instrumentiste a ses préférences. Ça, vous, là, j'imagine que vous travaillez de pair avec les gens qui deviennent vos clients. J'imagine que vous passez du temps avec eux pour voir un peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils recherchent, etc. Ça aussi, là, j'imagine que ça fait partie des choix que vous faites au départ.
Tout à fait. La jouabilité d'un instrument, l'ergonomie de jeu est extrêmement importante. Je ne vais pas dire qu'elle est plus importante que l'attention que je vais mettre dans la fabrication en elle-même de la guitare, mais le réglage final d'un instrument, si l'instrument est mal réglé, le musicien qui va l'utiliser ne va pas pouvoir le pousser à son 100%, va avoir beaucoup moins de plaisir, et en termes sonores, ça peut être quelque chose qui est beaucoup moins bon. Donc les étapes finales, tout ce qui est poser les frettes sur la guitare, le régler les frettes, les hauteurs de cordes, le galbe du manche, etc., c'est vraiment des étapes très 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 importantes. J'ai toujours un standard de réglage que je fais sur mes guitares, mais ce qu'on appelle le fine tuning, le réglage final avec le musicien, se fait en présence, bien entendu, de la personne pour qui je fabrique l'instrument. Et puis, on peut y revenir, parce que là, la guitare va bouger au bout d'une semaine, deux semaines de vie, etc. On vient, on repasse à l'atelier, on refait toujours un petit réglage. Et moi, ça me permet de voir un petit peu comment la guitare vieillit et puis comment le musicien a du plaisir avec. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'importance qui est mise là-dessus.
Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons, Théo. Merci beaucoup. Puis on écoute d'ailleurs une autre de vos guitares. Cette fois-ci, c'est Damien Levasseur qui en joue. Merci infiniment pour avoir partagé cette passion avec nous, Théo.
Avec grand plaisir. Merci à vous, Marc.
Eh bien, c'était la dernière de la saison de Django et compagnie. Invité Martin Tremblay et Théo Cazurian, deux luthiers, comme vous avez vu, qui ont deux approches un peu différentes. À la régie, Maurice Bolduc, co-réalisation et conseil, Jacques Bernard, réalisation, animation et thème d'ouverture, Marc Levasseur. Je vous dis à la saison prochaine. Merci. Au revoir.